Il est 1h du matin à Gaza, 23h temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est minuit. L'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde. Christophe Drevet, bonsoir Christophe.
Bonsoir Zéphirin Quadio, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, la bande de Gaza sous les bombes israéliennes, une reprise des opérations militaires très meurtrières et qui pousse le Hamas à diffuser une vidéo d'otages israéliens, lesquels décrivent les dangers qu'ils encourent face au bombardement. L'Ukraine, dans l'attente d'un hypothétique cessez-le-feu avec la Russie, les délégations américaines et russes étaient réunies ce lundi à Riyad en Arabie Saoudite, mais sans résultat pour le moment, alors que le territoire ukrainien est toujours sous les bombes russes. Et puis en Allemagne, les négociations pour la formation d'une coalition s'avèrent plus compliquées que prévu pour le futur chancelier Friedrich Merz. La CDU peine en effet à trouver un accord avec les sociaux-démocrates. Les infrastructures de santé touchées de plein fouet par les opérations israéliennes à Gaza. L'armée dit avoir tiré ce lundi, sans le savoir, sur un bâtiment de la Croix-Rouge dans le secteur de Rafah, dans le sud du territoire palestinien. L'état-major israélien affirme avoir visé ce lieu, pensant avoir identifié des suspects, en précisant qu'une enquête allait être ouverte. Le comité international de la Croix-Rouge a lui dénoncé une attaque contre ses locaux. Rappelons que ce dimanche déjà, l'hôpital Nasser de Ran Younes avait été visé, faisant 2 morts, dont un responsable du Hamas. Et dans ce contexte de reprise de la guerre dans l'enclave palestinienne, qui a déjà fait plus de 700 morts, une vidéo d'otages israéliens a été diffusée par le Hamas. C'est la première fois depuis la rupture de la trêve par Israël il y a une semaine. Elkanah Bohobot et Yosef Chaim Ohana avaient été enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023 au festival Nova en Israël, près de la frontière gazaoui. Dans cette vidéo, les otages appellent au retour du cessez-le-feu à Gaza. À Jérusalem, Sami Bouhalifa.
Non, il ne s'agit pas d'une vidéo de propagande, assurent d'emblée les deux otages qui s'expriment pourtant sous la contrainte. Le Hamas ne nous a rien demandé, il ne nous dicte pas ce qu'on doit dire, c'est au contraire nous qui avons supplié qu'on nous laisse prendre la parole. La vidéo dure 3 minutes. Leur message, un appel à l'aide. Avant la trêve, tous les points de passage de Gaza étaient fermés par Israël et on avait à peine de quoi manger. Durant la trêve, notre situation s'est améliorée, explique-t-il. Mais depuis le 18 mars et le retour des bombardements, le gouvernement israélien a décidé de signer notre arrêt de mort, poursuivent-ils. À la suite d'une frappe hier, j'ai failli perdre la vie, raconte l'un des deux otages. À travers cet enregistrement, le Hamas envoie un message aux autorités israéliennes. Seul le cessez-le-feu permettra le retour de vos otages. Le moment de diffusion n'a pas été choisi au hasard. Selon des informations de presse, le médiateur égyptien aurait proposé un nouveau cessez-le-feu en échange d'informations et de vidéos sur l'état de santé des otages. Ils sont 59 toujours détenus dans la bande de Gaza, 24 sont présumés vivants. Sami Bourlifa, Jérusalem, RFI.
L'armée israélienne a par ailleurs annoncé ce lundi soir avoir intercepté 2 projectiles tirés depuis la bande de Gaza sur le territoire israélien. Les sirènes d'alerte ont retenti dans des localités proches. Ces tirs ont été revendiqués par la branche armée du groupe djihad islamique allié du Hamas, les brigades Al-Quds. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, en visite à Jérusalem et dans les territoires palestiniens, a elle appelé Israël à revenir au cessez-le-feu. Elle a notamment évoqué les risques d'embrasement au niveau régional avec une nouvelle frappe israélienne aujourd'hui au sud Liban qui a fait 1 mort. La Turquie toujours sous haute tension au lendemain de l'incarcération du leader de l'opposition Ekrem İmamoğlu. Le maire d'Istanbul, poursuivi pour corruption, a été pourtant désigné hier par ses partisans comme leur candidat pour la présidentielle de 2028. L'opposition a organisé ce lundi soir de nouveaux rassemblements. Des milliers d'étudiants ont marché vers la municipalité d'Istanbul, où l'opposition se rassemble tous les soirs depuis l'arrestation du maire mercredi dernier. Des manifestations ont également eu lieu dans au moins 55 des 81 provinces du pays. Les délégations américaines et russes autour de la table en Arabie Saoudite, objectif, tenter de faire taire les armes en Ukraine. Une trêve qui pourrait être partielle, notamment en mer Noire. L'objectif de Donald Trump est de parvenir à un cessez-le-feu. Des pourparlers indirects ont débuté ce dimanche entre les représentants ukrainiens et américains. Ce lundi, c'était au tour de la délégation russe. Comment ces négociations sont-elles perçues en Ukraine? Écoutez la réponse du politologue ukrainien Mikhailo Chabanov. Il répond à Christina Petkova.
En tant que citoyen ukrainien, je suis vraiment très inquiet du format même de ces négociations. Ce sont des négociations sur l'Ukraine, mais sans l'Ukraine. En tant que politologue, je comprends que parfois une troisième partie peut aider à dialoguer quand deux camps ne peuvent pas se rencontrer pour diverses raisons objectives. Mais ici, on voit que cette troisième partie, que ce soit le président américain ou ses représentants comme Steve Witkoff, défend surtout les intérêts des États-Unis. C'est préoccupant, car au lieu d'être un véritable médiateur, Donald Trump impose surtout son propre point de vue et n'écoute pratiquement pas la partie ukrainienne, ou alors de manière très fragmentaire.
Et Moscou et Washington font savoir qu'ils publieront ce mardi un communiqué sur l'état de ces négociations, des pourparlers qualifiés de difficiles par la Russie. Pendant ce temps, une frappe russe sur la ville ukrainienne de Soumy a fait près de 90 blessés, dont 17 enfants. De leur côté, les plus hauts responsables militaires britanniques et français se sont à nouveau réunis ce lundi à Londres. Il s'agissait de discuter des garanties de sécurité à apporter à un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. Une réunion dans le cadre de la coalition des pays volontaires que tentent de constituer Paris et Londres. Cette rencontre est la troisième du genre, objectif dissuader Moscou de violer cette éventuelle trêve. L'Allemagne, très en pointe dans l'aide européenne à l'Ukraine, mais qui peine à former son propre gouvernement. La perspective d'arriver à former rapidement une coalition semble quelque peu s'éloigner. Le futur chancelier Friedrich Merz avait promis des négociations éclairs et un exécutif mis sur pied très rapidement. Mais alors qu'elles sont entrées dans la phase critique sur les questions financières, les négociations entre la CDU et le SPD patinent depuis quelques jours. Les conservateurs et les sociaux-démocrates entendaient présenter en fin de journée les résultats provisoire de leur groupe de travail, mais ces résultats demeurent incomplets. Les précisions depuis Berlin de Nathalie Versieux.
17 équipes de spécialistes de la CDU et du SPD négocient en ce moment même à travers Berlin. Avec des résultats très divers, les groupes de travail Culture et Europe ont bien avancé, tout comme la cellule chargée de négocier un compromis autour de la formation, de la recherche et du développement. Les choses coincent par contre autour de thèmes tels que les migrations ou les finances, ainsi que sur les questions de société. La cellule chargée de négocier les grandes lignes budgétaires s'est séparée vendredi sans résultat. Le SPD serait prêt à accepter des économies supplémentaires en échange d'un impôt pour les plus riches refusé par les conservateurs. Sur les migrations, pas d'accord non plus sur comment accélérer le rythme des expulsions. Désaccord également sur les prestations sociales accordées aux Ukrainiens que veut couper la CDU. Conservateurs et sociaux-démocrates sont également divisés sur le maintien de la libéralisation du cannabis, sur l'assouplissement des règles pour l'avortement et sur le climat. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
L'Allemagne, comme les autres pays européens, toujours sous la pression de leurs dépenses énergétiques, des dépenses accrues par le conflit ukrainien et la montée des prix, mais pas seulement. L'an dernier, la consommation d'énergie dans le monde a été en forte hausse. Sur la seule année 2024, la demande en énergie a augmenté de 2,2%, soit presque le double de la moyenne des 10 années précédentes. C'est le résultat du rapport annuel publié ce lundi par l'Agence internationale de l'énergie sur les raisons de cette hausse. Explication avec Stéphanie Schuller.
L'an dernier, la demande en énergie était en hausse partout dans le monde. La consommation d'électricité notamment a fait un bond de 4,3%. Les trois raisons principales, les vagues de chaleur record en 2024 qui ont incité les populations à faire tourner les climatiseurs à plein régime, l'intelligence artificielle très énergivore et enfin la mobilité douce avec l'arrivée des véhicules électriques. 80% de cette électricité supplémentaire demandée a été fournie par les énergies renouvelables et le nucléaire. La demande de pétrole, en revanche, a baissé et représente pour la première fois moins de 30% du mix énergétique mondial, surtout en raison de la Chine, souligne Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie.
Au cours des 10 dernières années, la Chine était à elle seule responsable de plus de 60% de la croissance de la demande mondiale de pétrole. Mais avec une économie chinoise qui ralentit et change de nature, et la vente des véhicules électriques qui s'envolent, la demande chinoise chinoise de pétrole devient très faible.
Malgré cela, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, mais désormais plus lentement que la croissance économique mondiale.
Un mot de tennis pour terminer, la suite du Master 1000 de Miami. Qualification pour les huitièmes de finale chez les messieurs du numéro 2 mondial Alexander Zverev. Chez les dames, qualification de la Biélorusse Sabalenka, de la chinoise Qi Wen et de l'italienne Paolini. Merci d'avoir écouté ce journal sur RFI. Il est minuit et 10 minutes à Paris. Excellente soirée.